Bienvenue sur Néo Travail, le podcast écoféministe qui explore le futur du travail. Nous sommes Hélène et Laetitia, et ici, nous questionnons l'impact du travail sur nos vies.
Nous explorons de nouvelles façons de travailler et de lutter grâce à des femmes engagées. Nous donnons la parole à celles qui refusent notre système patriarcal, consumériste et capitaliste.
Pour prendre soin du vivant, le futur du travail doit être écoféministe. Car tout est lié, tout est politique, tout est sensible, le travail aussi.
Il est possible de travailler différemment et certaines le font déjà. Bonne écoute! Bonjour Solène.
Bonjour Laetitia, bonjour Hélène.
Alors merci d'être parmi nous pour cet épisode, pour la deuxième fois du coup dont on est au travail. On est ravis de t'accueillir. Alors Solène, tu es la fondatrice de Creators for Good et l'autrice d'un livre qui s'intitule Le guide de l'entrepreneur durable. Tu as aussi réalisé un podcast qui s'appelle Sherpa de 10 épisodes. Et tes activités ont tout un fil rouge, finalement, c'est accompagner l'entrepreneuriat sociable et durable. Tu accompagnes en particulier les femmes. Avec Creators for Good, donc toi et ton équipe, vous accompagnez les femmes qui ont quitté le salariat pour lancer leurs activités. Une activité avec plus de sens, durable, qui prend le contre-pied du système de travail patriarcal et capitaliste. Et depuis 3 ans, vous organisez la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Cette 3e édition débute très prochainement, le 6 mars. Elle se déroulera entièrement en ligne et a pour thématique travailler, oser travailler autrement. Justement, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire travailler autrement ?
Alors, justement, je trouve que c'est un thème vraiment intéressant, le fait de travailler autrement, parce que c'est un des enjeux, à mes yeux, de notre siècle, à la fois dans le fond et dans la forme, puisque on est face à des enjeux écologiques sans précédent. Il faut absolument que notre système économique puisse pivoter, en fait, et qu'on trouve de nouvelles façons de créer de la valeur et donc de travailler et pour que les entreprises fonctionnent et que le système économique fonctionne, mais sans détruire la planète au passage. Et puis, cette révolution sur le fond, pour moi, elle s'accompagne aussi d'une révolution sur la forme. En tout cas, certains d'entre nous en ont l'aspiration, puisque ça ne sert à rien faire des baskets véganes qui n'utilisent pas de cuir d'animaux si, à côté, on exploite des salariés qui partent tous en burn-out et que finalement, il n'y a pas d'alignement sur toute la ligne et que le fond et la forme ne sont pas alignés. Et donc, travailler autrement, c'est trouver de nouvelles façons de créer de la valeur, comme je le disais, mais aussi et surtout voir à quel rythme on va créer cette valeur, comment est-ce qu'on va respecter les humains qui créent cette valeur. Et en tant que chef d'entreprise, puisque moi, c'est vraiment le cœur de mon métier, on est son propre patron. Et donc, c'est remettre en perspective les choix qu'on fait en termes de rythme, puisque l'entrepreneuriat, il y a pas mal de, moi, j'ai envie de dire, de clichés ou de croyances selon lesquelles il faut se donner à fond dans son projet et on ne prend pas de week-end et on travaille le soir et on ne prend pas de vacances. Et un petit peu cette image de l'entrepreneur qui va se sacrifier en fait à sa cause ou en tout cas pour faire décoller son activité. Et ça peut parfois faire peur. L'autre pendant de cette croyance, ce sont des personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant qu'elles vont avoir plus de liberté, d'être à leur rythme, mais en contrepartie vivent des objectifs peu ambitieux ou se disent qu'elles vont devoir rogner sur un niveau de vie ou des objectifs financiers qui leur permettraient d'investir, par exemple, ou de mieux s'entourer. Et donc, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver, finalement, sans se sacrifier et sans sacrifier non plus ses ambitions, à pouvoir trouver un moyen de travailler à son rythme et d'avoir l'impact qu'on souhaite avoir.
Alors toi, de ton côté, j'entends du coup ce que tu prônes pour les entrepreneurs et entrepreneuses. Toi, de ton côté, comment tu arrives à mettre en application finalement déjà, est-ce que tu le fais pour toi dans ton quotidien? Et si oui, comment tu mets en application dans ta vie quotidienne, au travail, dans tes collaborations, dans ton équilibre vie pro, vie perso?
C'est vrai que moi, j'ai une relation particulière en fait avec cette thématique parce que quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, c'était suite à un burn-out et j'avais une double motivation. J'avais la motivation du sens au travail, puisque une des raisons pour lesquelles j'ai fait un burn-out, c'était voilà, un désaccord avec les valeurs de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Et donc, j'ai voulu me lancer et créer mon propre projet pour qu'il soit 100% aligné avec mes valeurs et pour pouvoir vraiment contribuer au développement durable à l'échelle de ma vie professionnelle. Mais qui dit burn-out dit aussi, j'avais touché à l'épuisement et à ce que ça pouvait créer de néfaste que de s'oublier dans son travail et de voir le corps qui ne suit plus. Et donc, j'étais déterminée à avoir un rythme qui me convienne et qui soit soutenable au long cours. Dès que je me suis lancée, quelque part, j'ai mis un rythme en place assez strict de ne jamais travailler le soir, ne jamais travailler le week-end quand c'est les vacances. C'est vraiment les vacances. On met en place des réponses automatiques par email. On prévient tout le monde qu'on n'est pas joignable. Bref, je mettais tout en place dès le départ, en fait, pour avoir un rythme qui soit le plus sain possible. Ceci étant dit, ça a quand même évolué au fil des années, puisque quand je me suis lancée, je venais du salariat et j'avais quand même des habitudes de travail assez classiques, on va dire. Donc, je travaillais du lundi au vendredi, de 9h à 17-18h. Enfin, voilà, j'avais gardé finalement un rythme assez linéaire et assez classique. Et puis, au fil des années, j'ai commencé à expérimenter certaines choses. Il y en a deux là qui me viennent à l'esprit. La première, c'est de m'organiser en fonction de mon cycle féminin, donc de prendre en compte mes dates de règles, voilà, pour être tout à fait crue et transparente, parce que j'avais observé que c'était des semaines où c'était plus difficile pour moi d'être en réunion ou en contact avec d'autres personnes. Et donc, en bloquant mon agenda ces semaines-là et en disant « Ah, je ne suis pas disponible pour la réunion, mais c'est possible la semaine suivante », finalement, je me crée de l'espace pour faire d'autres choses que du contact avec les autres gens. Et j'ai remarqué que c'était une période plutôt propice à la mise à plat, l'introspection, pour faire son plan d'action pour la suite, revalider ses objectifs, ses intentions. Parce qu'en fait, pendant le début du cycle, en tant que femme, on est très connectée à son intuition. Donc, ça peut être une période qui semble moins productive, mais qui peut l'être tout autant sur d'autres fronts. Donc voilà un premier exemple. Et le deuxième, c'est la semaine de 4 jours qui m'avait beaucoup attirée, encore une fois, suite à ce burn-out. Mais j'avais jamais vraiment réussi à la mettre en place mes premières années d'entrepreneuriat parce que j'avais beau me dire, tiens, j'ai qu'à bloquer les vendredis. Par exemple, je cédais toujours à la tentation de « Ah ben machin, n'est disponible que ce jour-là » ou « Oh, j'ai 2-3 petits trucs à finir » et puis finalement, ça, voilà, j'ouvre la boîte mail et puis je commence à passer les 3-4 de la journée à travailler. Et j'avais pas mal d'appréhension en fait de réduire mon temps de travail, appréhension par rapport à mon chiffre d'affaires, par rapport aussi à l'image que ça aurait auprès de mes clients, mes partenaires, est-ce qu'ils vont penser que je suis vraiment impliquée et est-ce que ça va pas donner l'image de celle qui se la bouse parce qu'elle travaille sur des horaires plus restreints. Évidemment, c'était des croyances limitantes. Et puis finalement, c'est à l'arrivée de mon fils, donc à 3 ans et demi aujourd'hui, sa première année de vie, j'ai repris le travail d'abord à mi-temps, puis à temps plein, mais sur 4 jours, parce que j'avais une solution de garde qui était faite comme ça et je voulais pas non plus le faire garder plus de toute façon. Et puis, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire le même chiffre d'affaires que d'habitude sur 4 jours. Et donc, quand il est rentré à la crèche 5 jours par semaine, moi, j'ai gardé mon vendredi. Et du coup, depuis 3 ans et demi, je travaille 4 jours par semaine et mon entreprise a continué à grandir, le chiffre d'affaires aussi, l'impact aussi, alors que moi, mon temps de travail est resté bah, finalement alignée avec ce nouveau rythme, 4 jours de travail et 3 jours, enfin 2 jours pour la famille et 1 jour pour moi.
C'est intéressant, là, tu nous donnes quand même plein d'exemples et plein de preuves sur comment est-ce que toi, tu l'appliques. C'est intéressant, puis ça donne des pistes. On a fait un épisode sur le cycle menstruel, justement, et comment coopérer avec et puis l'appliquer à sa vie professionnelle. Et c'est intéressant de l'aborder. Justement, ça fait bien écho à l'écoféminisme et à la convergence des sollicitudes qu'on peut avoir envers le vivant de manière générale. C'est justement, donc, comme Laetitia le disait en introduction, donc cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe que tu organises depuis 3 ans maintenant. Qui a ce thème de voilà, travailler autrement. Est-ce que tu peux nous présenter justement en quelques mots ce que c'est que cette semaine et pourquoi finalement toi et ton équipe vous avez choisi cette thématique de oser travailler autrement ?
Ah, tout à fait. Donc effectivement, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, c'est un événement gratuit qui a lieu chaque année début mars. Donc cette année, c'est du 6 au 9. Ah, donc, c'est une semaine de 4 jours pour faire le lien avec ce que je viens de partager. Et l'idée, en fait, c'est de se rassembler autour d'un thème et de venir justement déconstruire certaines croyances qu'on peut avoir. Donc, les premières années, on a eu des thèmes sur l'argent, sur le marketing. Et cette année, on se focalise donc effectivement sur la façon dont on travaille, sur l'équilibre de vie qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Parce que bah moi, je peux raconter mon exemple à droite, à gauche, mais ça reste qu'un seul exemple. Et donc, j'ai eu l'élan bah, de rassembler en fait plus d'une vingtaine d'entrepreneurs qui, chacune à leur façon, travaillent autrement, tout en développant des entreprises qui ont des impacts vraiment inspirants. Et le but, c'est que par la multiplicité de ces exemples, que ça puisse venir donner l'autorisation, inspirer et donner le courage et l'élan à d'autres femmes entrepreneurs d'elles aussi oser avoir un rythme de travail qui soit différent ce que la société véhicule au sujet du travail en général et de l'entrepreneuriat en particulier. Et on a choisi ce thème cette année parce que c'est en fait une thématique qu'on avait déjà un petit peu abordée au sujet de la communication parce qu'il y a pas mal d'injonctions au sujet de justement la quantité à produire pour communiquer soi-disant efficacement et l'an passé, puisque c'était notre thème, on avait déjà un petit peu abordé cette thématique du temps. Et ça avait été une des thématiques les plus plébiscitées par l'audience. Et donc, on s'est dit que ce serait un bon thème pour une semaine entière dédiée à ce thème. Et donc, en fait, chaque jour de l'événement, il y a différents ateliers qui sont proposés. Donc, chaque conférencière propose une clé particulière en racontant un petit peu aussi du coup, les coulisses de sa propre activité. Donc, il y a des personnes qui pratiquent le slowprenariat, comme on dit, ou le slow working. Donc, ils travaillent à des rythmes vraiment hyper cool, mais qui restent très ambitieuses pour leurs impacts respectifs. D'autres qui ont fait aussi des choix assez particuliers. Donc, on a une personne, une photographe qui est en homeschooling. Donc, elle éduque son enfant à la maison. Elle fait l'éducation à la maison en parallèle de son activité. Une autre qui voyage avec sa famille tout en travaillant en mode digital nomade. Une autre qui vit dans un éco-village et qui raconte du coup ce que ça lui apporte pour son activité. On a aussi plusieurs interventions sur la façon dont on peut s'entourer, avec qui collaborer quand on n'a pas forcément les moyens de salarier d'autres personnes. Il y a plein de façons finalement de travailler différemment les uns avec les autres aussi. Et puis, on a une journée qui est dédiée au fait de travailler. Alors moi, je l'ai intitulée au féminin, c'est-à-dire en équilibrant l'énergie féminine masculine, en prenant soin de son bien-être, en développant aussi son intuition, en travaillant même avec la spiritualité. Donc voilà, en gros, certains des thèmes qui vont être abordés pendant la semaine. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir une multitude de témoignages, de bonnes pratiques, d'exemples, d'inspirations, non pas pour répliquer à la lettre dans sa propre activité ou dans sa propre vie, mais plutôt pour s'autoriser à créer ses propres codes finalement.
Ouais, c'est hyper intéressant en fait, cette diversité de profils et de pratiques sur cette façon de travailler là, parce qu'en fait on peut s'en inspirer et puis après trouver la recette qui nous correspond à chacune. Bon, l'écoféminisme a beaucoup de définitions aussi, l'entrepreneuriat aussi. Toi, l'entrepreneuriat écoféministe, puisque c'est le titre de cette semaine-là, tu le définis comment en fait? Ça veut dire quoi pour toi entreprendre en étant écoféministe?
Peut-être que effectivement, on peut avoir plein de définitions. Pour moi, c'est vraiment la création d'entreprises qui allient à la fois la sauvegarde de la planète et l'empouvoirment des femmes. Donc, on s'adresse finalement à des femmes entrepreneurs qui ont envie justement d'avoir des activités qui sont vertueuses pour la société. Après, avoir un impact sur l'environnement, ça peut être directement avec le fond, le cœur de métier de l'activité. Ça peut être aussi dans la forme. Nous, par exemple, la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, on essaye d'être le plus sobre possible énergétiquement parlant. On va aussi comptabiliser notre empreinte carbone parce que chaque année, là, les deux premières années, on a eu plus de 3000 participants. Donc, ça fait 3000 personnes qui regardent des vidéos pendant 4 jours d'affilée. Ça consomme. Donc, on comptabilise tout ça et on finance des actions pour compenser en fait les émissions carbone. Donc, voilà, ça peut être dans le fond comme dans la forme. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir jouer sur ces deux tableaux d'empouvoirment féminin et de respect de l'environnement ou d'impact positif sur la planète.
Comme tu parles des femmes, qu'est-ce qui t'a amené à cibler plus particulièrement en fait, ce profil-là d'entrepreneur?
Là aussi, ça remonte à l'origine de ma propre aventure entrepreneuriale parce que moi, j'ai démarré en 2014, donc ça fait bientôt 9 ans. Et en fait, quand j'ai eu envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, donc suite à ce fameux burn-out dont je faisais mention tout à l'heure, quelque part, je ne me suis pas reconnue dans les conseils ou les aides qui pouvaient exister à l'entrepreneuriat. Il y avait beaucoup de concours à start-up. Et moi, je n'avais pas forcément envie de monter une start-up où on est obligé de se sacrifier, prendre 3 ans sans se payer et sans prendre de vacances. Et puis, les concours, ça demande quand même d'être dans une compétitivité. Et moi, je n'avais pas du tout la confiance quand je me lançais pour défendre mon projet devant un jury. Enfin, ça me semblait vraiment pas aligné finalement avec les raisons pour lesquelles j'avais envie d'entreprendre. Alors, il existait déjà un petit peu à l'époque quelques initiatives qui s'adressaient plutôt aux femmes entrepreneurs, mais en tout cas, de ce que j'ai observé, elles répliquaient ce qui existait pour les entrepreneurs en général, donc avec des codes plutôt masculins, pensés par des hommes pour des hommes, mais on ne dit pas que les... ils ne nomment pas le fait que ce soit plutôt masculin en disant que c'est neutre, c'est pour tout le monde, mais en fait, dans les faits, ça correspond plutôt à des façons de fonctionner qui ne sont pas les nôtres, quoi. J'ai eu envie d'accompagner plutôt des femmes aussi parce qu'elles sont plus nombreuses que les hommes à avoir envie et avoir cet élan d'entreprendre pour la planète. Et le dernier enjeu ou la statistique en fait qui m'a fait dire qu'il y avait absolument quelque chose à faire, c'est que les femmes entrepreneurs se payent 30% de moins que les hommes entrepreneurs. Dans le salariat, c'est 20%. Donc, on peut dire, mais c'est horrible, que font les entreprises, mais pourquoi les DRH qui sont toutes des femmes payent moins les femmes, etc. Quand on est chef d'entreprise, donc on fixe ses propres objectifs et son propre salaire. Et nous-mêmes, en fait, on n'ose pas avoir des ambitions où on n'ose pas se payer autant que le font ces messieurs. Et je me suis dit que c'était, voilà, qu'il fallait absolument pouvoir trouver des solutions à ces gens, à ces enjeux-là. Et c'est pour ça que Creators for Good se focalise sur l'accompagnement des femmes entrepreneurs en particulier.
Tout à l'heure, tu as parlé de slowpreneuriat. Et justement, on voulait y revenir. Alors, slow working, slowpreneuriat, c'est vrai qu'on commence à en entendre pas mal parler avec la semaine des 4 jours, la semaine de 30 heures notamment. Donc, c'est le fait de ralentir et même en phase de création d'activité finalement. De ton côté, tu as récemment partagé sur les réseaux sociaux, sur les tiens, que tu attendais une bonne nouvelle, que tu allais donc faire une pause. Et tu parles d'une année de la décroissance. Et donc, pas seulement pour toi, mais aussi pour tes collaboratrices et les personnes qui travaillent avec toi. Et du coup, je voulais te poser la question, si tu peux peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur le slowpreneuriat, qu'est-ce que c'est, et puis comment s'est prise cette décision de ralentir toute ton activité, finalement, pas que juste toi, tu te mettes en pause, mais que tu laisses l'activité se continuer, mais finalement que tout ce qui se passe autour de Creators for Good soit ralenti. Comment on en vient à ce type de décision?
Oui, tout à fait. Le slowpreneuriat, effectivement, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler. Donc, l'idée, c'est de ralentir, de travailler moins. Je pense que c'est aussi et surtout de travailler mieux, d'être plus dans la qualité, pardon, que dans la quantité. Et ça peut s'appliquer à nos méthodes marketing, à la façon, au nombre de clients qu'on va préférer avoir, au nombre de projets en parallèle dans lesquels on va s'investir. Je pense que c'est un petit peu réducteur de dire que c'est juste travailler moins. C'est vraiment l'idée de travailler mieux aussi, d'avoir une qualité plus grande. Et en ça, on peut atteindre des objectifs et avoir des ambitions tout aussi grande que d'autres façons, d'autres styles de leadership, on va dire ça comme ça. Je ne suis pas forcément la meilleure pour en parler. Il y a Laure Daudier, la fondatrice de Maslow Boîte, qui a un atelier justement pendant la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe sur le slowpreneuriat, parce qu'elle, pour le coup, c'est son expertise première. On a aussi Diane Ballona-Roland, qui est experte en gestion du temps et qui a écrit un livre sur le slow working et qui fait partie de nos conférencières. Donc pour les personnes qui veulent creuser ce sujet, je vous renvoie vers ces expertes-là qui donneront des définitions peut-être encore plus complètes que la mienne. Mais pour revenir sur la décroissance, donc, qui est le mot que j'ai choisi pour mon année, parce que donc effectivement, comme tu le disais, j'attends un heureux événement. Donc je suis enceinte et autant pour ma première grossesse, j'avais choisi de faire en sorte, en tout cas c'était mon intention, que ma grossesse ne perturbe pas le déroulement de mon activité. Alors j'avais mis mes accompagnements en pause quelques mois, mais mon équipe avait continué à faire tourner l'activité pendant mon congé maternité. Et effectivement, ça avait eu assez peu d'impact finalement sur l'entreprise, le fait que moi, je m'arrête pendant quelques mois. J'avais vraiment tout mis en place pour que ça se passe comme ça. Là, pour cette deuxième grossesse, j'ai eu l'intuition ou j'ai eu l'envie de créer d'autres opportunités finalement pour mon activité, parce que je suis convaincue que le vide peut être fertile et que le ralentissement peut vraiment avoir des vertus. Et donc j'ai eu envie de profiter de cette pause imposée par mon corps et l'arrivée d'un nouvel être dans notre famille. Pour repartir ensuite un petit peu d'une page blanche. Alors, pas tout à fait blanche, puisque Creators for Good aura 9 ans en septembre prochain Et puis j'ai construit tout un tas de choses qui, voilà, qui, et moi et mon équipe, hein, on a construit des choses au fil des années qui vont être amenées à être recyclées. Mais j'ai envie de me laisser cette opportunité de repartir sur potentiellement une nouvelle base. Je ne sais pas encore à quoi ça ressemblera, ce qui est très, alors pas déstabilisant, mais très comment, nouveau pour moi, qui aime prévoir, organiser, faire en sorte que tout soit au carré. Et je suis plutôt quelqu'un dans le contrôle. Et là, j'ai envie voilà, de me donner cette opportunité de lâcher prise, de ne pas savoir, de voilà faire de prendre ma pause de congé maternité et de revenir avec un regard frais et peut-être d'orienter les choses différemment ou de reprendre certaines choses et pas d'autres, voilà, de me laisser cette opportunité en tout cas en tant que chef d'entreprise. Et j'en profite aussi pour donner un autre exemple. Il y a Yumna Tarazi qui fait partie donc des intervenantes à nouveau donc de cette semaine de l'entrepreneuriat écoféministe et qui a pris un congé sabbatique d'un an pendant une période de forte croissance pour son activité. Elle a osé tout lâcher et elle revient après un an de pause salvatrice. Et elle explique dans son atelier qu'elle a la force de soulever les montagnes parce que maintenant qu'elle a eu cette période de vide, elle a à nouveau de l'énergie à revendre. Et là encore, on peut s'inspirer de la nature. Finalement, il y a des saisons. Avant de pouvoir porter ses fruits, un arbre a besoin de se dépouiller de ses feuilles et de faire un peu de vide dans sa croissance. Pendant l'hiver et puis ensuite ça repart au printemps. Et donc pour mon activité comme pour celle de Yumna, et puis je suis sûre qu'on peut tous connaître comme ça des périodes où on ressent ce besoin de ralentir et de laisser les choses se poser, de laisser les choses se décanter, et c'est pas toujours une décision facile à prendre, à assumer aussi à l'extérieur, parce que on peut se dire, encore une fois, on peut avoir des peurs comme ça sur le jugement que les autres vont avoir sur notre détermination, notre implication ou sur, d'autres éléments. Parce que on reste dans une société patriarcale qui valorise la croissance à tout prix et surtout bien linéaire et prédictible d'année en année. Et en fait, moi, je suis plutôt partisane d'avoir des entreprises qui sont cycliques, tout comme nous, on est cycliques. Et c'est OK d'avoir des phases, certes, de croissance, et ce n'est pas un gros mot, si elles sont équilibrées par d'autres phases, peut-être un peu plus stagnantes, voire même de ralentissement ou de décroissance, qui permettent de régénérer les choses et de pouvoir se dépouiller aussi de certaines choses qui seraient devenues obsolètes, mais qu'on ne voit pas parce qu'on est dans l'action et on est au four et au moulin et on ne se rend pas toujours compte en fait de ce qu'il n'y a plus lieu d'être.
Oui, effectivement, j'aime bien quand tu parles de vide fertile, ça me parle parce que on comprend bien ce que ça veut dire en fait derrière cette pause d'un an, qu'est-ce que peut-être revenir pour repenser les choses différemment, faire différemment. Ça, j'entends bien et on sent que c'est vraiment une conviction de ta part, de ton côté. Mais du coup, moi, je me pose la question, parce que du coup, tu travailles avec une équipe, tes collaboratrices, comment elles ont accueilli la nouvelle, enfin, comment ça se passe pour l'organisation? Et même à ton retour, finalement, est-ce que toi, tu comptes... Alors du coup, tu sais pas, tu l'as dit que tu ne voulais pas forcément prédire, mais est-ce que tu comptes reprendre en tout cas les quelques activités que tu faisais, l'accompagnement, etc., reprendre là où tu l'as laissé? Ou est-ce que vraiment c'est OK, je reviens et page blanche, je recommence, pas à zéro, mais en tout cas, je redéfinis l'ensemble de mes activités à ce moment-là?
Alors, l'idée, c'est vraiment de redéfinir l'ensemble des activités à ce moment-là, mais en partant de l'expérience qui a été accumulée. Mes collaboratrices, elles auront le choix de revenir dans l'aventure ou peut-être que ça aura été l'occasion pour elles de s'engager dans d'autres directions. Donc, c'est effectivement un risque que je prends. Mais en même temps, parfois aussi, bah, quand on collabore, moi, les personnes avec qui je collabore, il y en a certaines, ça fait 6-7 ans qu'on travaille ensemble. Et de temps en temps, voilà, d'avoir des périodes où justement, on va arrêter de travailler ensemble. Je pense que ça peut apporter quelque chose à nos relations si on redémarre parce que on a pris certaines habitudes où il y a peut-être certaines façons de faire qui seraient à redéfinir, mais qu'on a du mal à faire quand on est dans le flow de tout ce qu'il y a à faire pour faire tourner la machine. Et donc, je pense que ça peut vraiment être quelque chose de positif. Je l'avais un petit peu vécu, j'avais une collaboratrice, Maude, que j'embrasse si elle nous écoute, qui avait pris une pause d'un an pour faire un tour d'Europe en caravane avec sa famille. Et c'est vrai que quand elle m'avait annoncé voilà, son congé sabbatique, je m'étais dit « Oh là là, comment je vais faire sans elle ?» Et puis, au final, j'avais recruté d'autres personnes et ça s'était très bien passé. Ça m'avait permis de redéfinir aussi un petit peu mes besoins parce qu'encore une fois, on avait pris des habitudes qui étaient peut-être devenues obsolètes sans qu'on s'en rende compte. Et puis, lorsqu'elle est revenue de son congé sabbatique, elle m'a recontactée. Je crois que j'étais une des... En fait, j'avais été sa toute première cliente. Elle est assistante en communication. J'ai fait partie des premières personnes qu'elle a recontactées. Moi, j'étais ravie de pouvoir la réintégrer à l'équipe, sachant qu'entre-temps, j'avais embauché des personnes pour la remplacer. Et du coup, je lui ai proposé un poste de coordination un peu plus élevé, finalement. Donc, elle a pu évoluer aussi dans ses missions. Et donc, ça a été un vide fertile et j'espère que ça s'appliquera à l'ensemble de mes équipes pour cette année. Et s'il y a des collaborations qui s'arrêtent à cause de cette pause, moi, j'ai envie de croire que c'est peut-être un mal pour un bien et que parfois, c'est OK. S'il y a des choses qui s'arrêtent, ça ne veut pas dire que on a fait un bout de chemin ensemble et j'en suis super contente. Et pour certaines, on va continuer à avancer ensemble et pour d'autres, prendre d'autres chemins et je suis OK avec ça aussi.
Ouais, c'est hyper intéressant. On retombe un peu sur le sujet de travail non linéaire en fait et prédictible. C'est-à-dire que toi, tu fais des choix pour toi parce que tu as envie de travailler différemment et tu as besoin de cette pause et ça sera certainement bénéfique. Puis ça casse un peu les codes de ce côté... Du par exemple le salariat classique où on voit effectivement les choses de manière très, très linéaire. Donc ça, c'est hyper intéressant. Tu as évoqué quelques ressources pendant qu'on discutait et puis évidemment, on donnera toutes les informations pour que les personnes puissent trouver les informations concernant Creators for Good et puis la troisième édition de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe aussi. Est-ce que tu aurais aussi... Avant de conclure, peut-être d'autres références, quelque chose qui t'aurait marqué et pour que les personnes puissent creuser le sujet de travailler autrement, peut-être des choses qu'on trouve pas dans la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe, si tu penses à d'autres choses.
Oui, tout à fait. Il y a peut-être quelque chose qui peut intéresser vos auditrices sur cette thématique de travailler autrement, qu'on soit d'ailleurs entrepreneur ou même qu'on contribue au développement d'une entreprise en tant que salarié. C'est l'idée, en fait, d'appliquer la permaculture à l'entreprise. Alors moi, j'ai écrit un livre sur le sujet qui s'appelle « Le guide de l'entrepreneur durable » où on fait un parallèle entre les 12 principes de la permaculture, dont pas mal sont liés d'ailleurs au fait de ralentir et de prendre le temps des rythmes de la nature, notamment. Et il y a un autre livre qui est sorti le même mois que le mien, qui s'appelle « La perma-entreprise », qui a été écrit par Sylvain Brezard et qui, lui, fait ce même parallèle, mais appliqué à des entreprises de plus grande taille et puis qui peuvent même être appliquées par des grandes boîtes. Donc, pour les entrepreneurs, il y a le guide de l'entrepreneur durable et pour les intrapreneurs ou les salariés, le livre « La perma-entreprise ». Parce que je pense qu'il y a vraiment un parallèle intéressant à faire entre les nouvelles façons d'exploiter la terre, même si le mot exploiter est peut-être à revoir, Ou en tout cas, voilà, comment est-ce qu'on rend une terre fertile, puisque c'est le but de la permaculture, et comment on peut appliquer en fait ces principes-là à d'autres domaines. Donc, il y en a qui le font qui appliquent la permaculture à la finance, par exemple, ou à la coopération. Il y a un livre aussi, La permaculture humaine, que je peux recommander sur ce sujet. Et puis, pour le sujet du travail, la perma-entreprise, c'est vraiment, je trouve, une métaphore qui permet d'avoir plein de bonnes idées, quels que soient les enjeux qui sont les nôtres.
Tu as raison, c'est un sujet pertinent, s'inspirer de la nature finalement pour gagner en fertilité sans pour autant détruire ce qui crée de la fertilité. Donc, merci pour cette ressource. Écoute, on aurait peut-être plein d'autres sujets à aborder avec toi parce que c'est riche d'enseignements et d'expériences, tout ce que tu nous as partagé, mais il va falloir qu'on conclue. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. Déjà sur ton vécu, sur la façon dont toi tu travailles autrement, ça inspire. Et puis, j'espère que tu auras donné envie de découvrir aussi cette édition, cette troisième édition de la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Merci à toi et puis au plaisir d'échanger bientôt sur d'autres sujets.
Merci à vous deux pour aujourd'hui.
Merci.
Et puis pour votre confiance renouvelée. J'ai été honorée de pouvoir être à nouveau invitée dans votre super podcast. Merci beaucoup à vous deux. Et puis, effectivement, je vous retrouve du coup pendant la semaine de l'entrepreneuriat écoféministe. Et pour vos auditrices qui auront l'élan de nous rejoindre, on vous attend avec impatience.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, le meilleur moyen de nous soutenir est de laisser un avis sympa et de noter ce podcast en lui mettant 5 étoiles.
Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et LinkedIn et vous abonner à la newsletter. À bientôt pour de nouvelles explorations écoféministes.